messieurs les producteurs de cinéma sonore. Regardez-moi, regardez-moi encore. De la tête aux sandales, j'ai tout pour plaire, j'ai tout pour faire une vedette internationale.
Bonjour à toutes, bonjour à toutes, bienvenue sur les ondes de Graphite 94.9. Ce matin, la matinale, nous allons parler biscuits, mais également musique. On en parle juste après le générique.
Attention.
Ce matin, pour m'accompagner, deux invités dans les studios, Isabelle et Benoît Amiel, deux propriétaires et deux créateurs de La Pierre qui Tourne, la biscuiterie qu'on retrouve à Couloisy. Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue sur notre antenne. Habituellement, on se croise plutôt dans votre boutique le matin pour passer en allant au boulot avec un petit café et une viennoiserie. Là, aujourd'hui, vous êtes dans nos studios. On fait un rapide historique de la biscuiterie. On avait fait un reportage, j'ai regardé, c'était en 2021. Vous venez d'ouvrir le magasin. Depuis 2021, qui c'est qui nous parle de la genèse du projet ?
Ouais, alors on a ouvert la biscuiterie en 2011 en fait, et on était sur Attichy pendant une dizaine d'années, donc on y vendait nos petits biscuits sur place dans une boutique, et puis aussi un peu partout en France, au final, dans des épiceries, magasins bio. Voilà, et en 2021, juste au moment du Covid, on a construit un bâtiment à Couloisy et on y a également construit un fournil. Donc on fait des biscuits maintenant et du pain au levain, des viennoiseries, de la pâtisserie, voilà.
Et alors, à la base initiale, c'était uniquement du biscuit ?
Ouais, c'était du biscuit parce qu'on pensait, enfin, on avait toujours eu l'idée depuis très longtemps d'ouvrir une boulangerie. C'était même le projet initial. Et puis, on avait des enfants très petits. On s'est dit, oh là là, la boulangerie, ça va être fou. On va ouvrir plutôt d'abord une biscuiterie parce que ça nous bottait quand même, évidemment. Et puis, ensuite, on ouvrira une boulangerie. C'est ce qu'on a fait, voilà.
Alors Benoît, justement, la boulangerie, j'ai réécouté le reportage qu'on avait fait en 2001, et vous nous disiez que votre passion, c'était plutôt la cuisson du pain, c'est toujours le cas. Il y a des choses qui ont évolué depuis 2021.
C'est toujours la cuisson, parce que ça reste un moment un peu crucial sur la fabrication du pain. Et puis c'est là où on voit quand même le résultat du pétrissage et de la mise en forme qui a été faite précédemment. Après, évidemment, ça a évolué, parce que j'ai appréhendé les choses plus dans leur ensemble, et puis le pain, on pourra en parler très très longtemps, il y a beaucoup beaucoup de choses à en dire, mais ça reste quand même un produit assez, assez incroyable à faire tous les jours.
C'est quoi, c'est la magie du pain qui se lève, la préparation, et puis à la fin justement la cuisson et la vente?
C'est vrai qu'il y a un côté un peu image d'Épinal, on se dit oh là là, je pars avec juste de l'eau, de la farine et du sel, et puis j'arrive à un produit qui a une jolie croûte, enfin quand il est réussi avec plein de couleurs, des graines, enfin c'est un produit du quotidien pour beaucoup de gens, c'est quand même aussi un symbole très fort en France, hein, malgré tout. Donc c'est vrai qu'on se laisse un peu capter par ce produit, quoi. Il est assez dingue.
Vous êtes trois boulangeries sur le secteur, il y a deux boulangeries à Cuise-la-Motte, plus vous à Couloisy. Comment on arrive à se démarquer en faisant... Alors vous ne faites pas de baguettes ?
Oui, alors nous on a fait le choix effectivement de partir sur des pains de plus gros format. On cherche vraiment des pains de conservation. Après les collègues, chacun leur approche. Enfin je pense qu'on est tous très différents et je pense qu'on fait tous des produits de qualité. Globalement la boulangerie en France a quand même bien progressé depuis les années 90. Nous ce qu'on cherche c'est un produit de convivialité, un produit à partager, d'où le format. Et un produit qui se garde parce qu'on a remarqué que les pains en levain avaient aussi une vocation à maturer, et sur quelques jours le pain bouge et est plutôt dans le bon sens, donc on se concentre là-dessus.
Pendant le reportage, on parlait de la farine. À l'époque, vous m'aviez dit que vous vouliez peut-être moudre un peu de farine. Est-ce que vous avez pu, depuis 4 ans, moudre de la farine ? Je ne crois pas.
En fait, alors oui, c'était une idée vraiment dès le départ. Et puis, on s'est vite rendu compte que d'abord, ça prenait beaucoup de temps. De l'espace et du temps. Donc, et on a peu de temps. On a déjà un gros boulot entre les biscuits, le pain, tout ça. Et c'est un vrai métier, la meunerie, en fait. Et on a trouvé des meuniers avec qui on travaille vraiment en confiance, qui font ça très bien. Et du coup, on leur laisse cette partie-là, finalement.
Parce que la farine, l'air de rien, on la voit en supermarché ou en magasin bio quand on l'achète en bio, mais c'est un produit qui a l'air comme ça, tout simple, et au final, il faut un vrai savoir-faire. Les bons meuniers travaillent à l'oreille. Hein, il faut savoir régler... alors nous, on travaille avec des farines à meules de pierre, donc il faut vraiment savoir régler les meules à l'oreille. Ça blague pas, et c'est un produit qui demande une grosse expérience. Donc c'est pas un projet que j'abandonne complètement, mais si toutefois ça arrivait, ce serait avec un tout petit moulin de table, histoire de sortir une très petite gamme pour s'amuser, mais en aucun cas on se retrouvera à avoir une meunerie sur Couloisy.
Alors que vous êtes rencontré, le storytelling dit que vous êtes rencontré dans un bar irlandais, c'est vrai, c'est le storytelling ou c'est la vérité?
Non, c'est la vérité, ouais.
C'est un bar qui s'appelait le Tiernanog à Lille, pour ceux qui connaissent, dans les années 90-2000.
Il n'y a pas très longtemps, en fait.
Déjà, un rendez-vous autour de la convivialité, pourquoi vous avez pu faire un bar à la place d'ouvrir une boulangerie?
Ouais, c'est vrai. Non, en fait, on voulait vraiment... on est assez épicurien et on voulait vraiment travailler le produit, quoi. Et c'est vrai qu'un bar, ça aurait pu être aussi quelque chose d'intéressant, hein, ceci dit. Mais...
Bah après, il faut savoir aussi limiter sa consommation, quoi.
C'est... Alors que le pain, c'est bon. Le pain, on peut en manger.
Ouais,
là, ça
ouais,
va. Alors, c'est vrai qu'on a dit que c'était une biscuiterie, également boulangerie, mais également, vous faites salon de thé. On peut venir consommer de la nourriture le midi. En plus, il y a toute une épicerie avec des saucissons, des fromages, ce genre de choses, en plus de vos produits.
Ouais, en fait, l'idée, c'est vraiment d'avoir... On n'est pas un magasin. On n'est pas une épicerie globale à faire de l'huile, du vinaigre et voilà, on a des produits qui vont bien avec ce qu'on fabrique. Donc on a du thé parce que ça va super bien avec les biscuits, du thé, du café, on va avoir du fromage, du saucisson en effet parce que ça va super bien avec le pain et de la confiture et du miel et voilà. Mais c'est vraiment cet esprit aussi de venir, de pouvoir avoir et son pain et son saucisson, c'est vachement sympa quoi, d'aller chez des copains et d'offrir. Et d'ailleurs on est super content de voir que beaucoup de nos clients achètent le pain pour l'offrir, pour ramener en cadeau à des en sortant un soir. Voilà, ça c'est vraiment très sympa pour nous de voir ça.
C'est quoi les formats de pain? Parce que alors j'ai vu il y a des petites meules, je sais pas comment on appelle ça, des petits formats, mais il y a des très gros formats. J'avais vu pour les fêtes.
On peut avoir des formats de 500 grammes à en gros
7 kilos.
Ouais, 7 kilos quand on nous les commande. Et c'est vrai qu'on n'a pas de tous les jours des énorme pain, mais tous les jours, en tout cas, ça va de 500 grammes à 3 kilos, en gros, quoi.
Ouais. Vos pains, on les retrouve dans le Compiénois chez certains restaurateurs. Je crois qu'on les trouve chez les Ferlampin, par exemple.
Ouais, au Rhizome, au Ferlampin. Voilà, dans des restos où ils travaillent plutôt très bien. Donc, on est ravis de pouvoir accompagner les assiettes avec notre pain. Et puis, on est très bien distribués, en tout cas pour acheter, si vous avez envie d'acheter le pain, à la nouvelle Biocoop de Compiègne. Et ça, c'est vraiment chouette.
Comment ça se passe pour le transport? Qui c'est qui livre le pain le matin? C'est eux qui viennent chercher? C'est vous qui ramenez?
On a un super livreur qui s'appelle Pascal, qui est bien sympa et qui livre le pain dans les restos. On est aussi chez Holy Sister, on est chez Nougatine. Voilà, ils prennent le pain sur Compiègne.
Sur les biscuits, j'ai été voir, il y a un site internet où il y a toutes les informations, notamment une carte de France avec tous les points de vente. Comment on travaille chaque point de vente? Comment on les démarche? C'est eux qui vous démarchent? Il y a des salons pour ça?
Alors, en fait, on n'a jamais démarché quasiment. On fait un salon tous les 3 ans, mais on n'aime pas trop ça. Et puis, on a eu la chance, en fait, d'avoir le bouche-à-oreille qui a super bien marché tout de suite pour la biscuiterie. Et ça fait des années qu'on travaille avec des clients qui viennent nous voir plutôt que l'inverse. On a cette chance-là, pour l'instant, en tout cas, ouais.
Alors, Benoît, vous êtes venu avec des disques. C'est vrai que ça fait plein de fois que je relance l'équipe de Diggers Réunion pour qu'ils vous invitent. Grosse collection de vinyles. Alors, on a pris l'excuse du magasin et de la boulangerie. Vous êtes venu avec des disques. Est-ce que vous pouvez nous présenter le premier disque qui est sur la platine?
Ouais, alors, ça a été très compliqué de choisir parce que j'avais, a priori, 3 disques à sélectionner. Alors, parmi ceux peu. Là, il y a Carl Hectors and the Malkoons, qui est un groupe allemand qui s'est formé dans les années 2000. Alors, c'est ce que j'aime beaucoup en musique, c'est-à-dire que c'est un mélange de plein de styles, afro, dub, jazz, électro-rock, punk, enfin voilà, c'est tout ce qu'on... Tout ce furieux mélange. Et voilà, donc notamment ce premier disque que j'avais chopé à Paris chez un disquaire que j'aime bien, qui s'appelle Taman Rasset. Et je le recommande chaleureusement à tous les gens curieux, parce que c'est un super album, quoi.
Vraiment, je vous laisse aller appuyer sur le bouton play, normalement ça devrait se lancer. Et on se retrouve juste après ce morceau. Et voilà, on s'est fait avoir par la fin de ce morceau. On rappelle le titre, le morceau, et peut-être l'album, et on va parler peut-être du label aussi.
Ouais, alors le label, je suis en train de chercher sur la pochette. Alors pour la repérer, c'est facile en fait, c'est Carl Hectors and the Malkoons, c'est une super pochette craft avec un triangle brun dessus. De toute façon, vous cherchez sur les plateformes et tout ça, on peut trouver facilement. Après, chez les disquaires, on trouve aussi, mais il faut des gens un peu pointus. Et bon, je pense que c'est un album maintenant qui doit coûter un peu de sous quand même, parce qu'il n'est pas sorti en grosse presse. Voilà, quoi vous dire d'autre.
Qu'est-ce qu'on écoute à la pierre qui tourne? Est-ce que ce qu'on écoute avec les clients et ce qu'on écoute derrière à la production, c'est différent? Parce que j'imagine en plus la production, c'est tôt le matin.
Alors c'est vrai qu'il y a un petit... ce qu'on écoute le matin, c'est peut-être un peu plus pointu que ce qu'on écoute quand les clients sont là. C'est vrai que alors, nous, on arrive en général vers 4h... Enfin, moi, j'arrive vers 4h15, 4h30 sur le labo. La musique, dès le démarrage, est là, quoi. Enfin, c'est aussi un moment où on peut écouter des trucs, justement... qu'on n'a pas le temps d'écouter dans la journée ou quand on suit un peu l'actu et que voilà. Donc j'ai des playlists et puis on la met en marche jusqu'à 8h quand Isabelle arrive, où là on bascule sur quelque chose d'un peu plus consensuel, quoi. Mais du coup le matin, ouais, on écoute des trucs très variés. En ce moment on est très branché blues parce que j'ai un nouveau boulanger qui est guitariste et qui aime bien le rock, qui aime bien le blues, donc ça m'a permis de revoir un peu les classiques à ce niveau-là, quoi.
Un boulanger italien, c'est ça?
Non, c'est le biscuitier qui est italien.
Ouais, c'est ça.
C'est le biscuitier qui est italien. Ouais.
Alors sur le recrutement, là on voit sur les réseaux, vous recherchez à recruter une employée ou un employé polyvalent pour aider les boulangers. C'est compliqué aujourd'hui le recrutement. Quand on avait fait le reportage, vous étiez 4 ou 5. Là aujourd'hui, vous êtes combien, une dizaine?
Ouais, on est une dizaine. Oui, c'est ça. Alors le recrutement, comme tous les métiers de bouche en fait, hein, c'est un peu plus compliqué maintenant. Voilà, alors on a des profils assez atypiques au final qui viennent nous voir, on aime beaucoup, hein, mais c'est vrai que la vie fait qu'on peut avoir des gens qui bougent aussi, et les gens bougent de plus en plus sur leur poste, et voilà. Donc on recrute régulièrement, mais on est confiant. Voilà, on va rencontrer encore des gens cette semaine. Donc
Là, c'est quoi, employé polyvalent? C'est faire de la caisse, du ménage?
Non, là, c'est vraiment...
Ah, c'est dans la boulangerie?
Ouais, c'est vraiment dans le fournil, en fait. Là, c'est vraiment un boulot de production. Voilà, donc on ne demande pas vraiment de certification. Enfin, voilà, tous les gens motivés sont les bienvenus. C'est plutôt chouette. Et tous les gens soigneux et qui ont envie de mettre la main à la pâte concrètement sont les bienvenus sur ce poste qui est 15 heures par semaine. Donc, c'est pas un très gros...
C'est un poste de complément, quoi.
Voilà, c'est un poste de complément, mais ça peut intéresser aussi des gens qui n'ont
pas... Une vie de famille,
ouais,
ou ce genre de choses.
Hein. Ouais, c'est ça.
Vous, Benoît, vous avez fait une formation de boulanger?
Oui, enfin c'est une reconversion, hein. Une formation qui a été faite. J'ai été candidat libre.
D'accord, ok, c'est encore du soir.
Et de Beauvais. La dernière année où on était à Tichy, ils ont eu la gentillesse de m'accueillir pour quelques sessions. J'étais déjà très très orienté levain, donc c'est vrai que ce qui est demandé au CAP de façon, on va dire traditionnelle, et pas forcément l'orientation que j'avais déjà à l'époque, mais je suis tombé sur des gens extrêmement bien, très sympas, très ouverts sur les deux CFA de l'Oise, là, et notamment alors un monsieur dont je me souviens plus du nom, mais qui doit être encore prof, je crois, sur Compiègne, qui défendait mordicus la présence d'un des derniers fours à bois, je pense, des CFA, même en France, hein, il y a encore un four à bois à Compiègne. Alors je pense qu'il ne sert pas beaucoup, mais ce monsieur a été vraiment très chouette quand je suis arrivé.
Vous avez fait le choix de l'électrique, d'une question practicité, s'il aurait fallu du bois, il aurait fallu des stères de bois pour pouvoir...
Oui, il y a eu plusieurs... on était très avancés sur le projet du four à bois. On avait notamment rencontré... j'avais été très en contact avec un monsieur qui était la deuxième ou troisième génération de fabricants de four à bois français. Il y en a plusieurs, hein, mais lui particulièrement, ce qui m'intéressait, c'est qu'il avait vraiment cette tradition familiale. Et puis, en discutant avec lui des contraintes mécaniques, la façon dont on devait installer le four dans notre nouveau bâtiment, le poids du four par exemple, la gestion du bois effectivement, qui était aussi très complexe, hein, parce qu'on parlait sur notre magasin, sur notre production, on parlait entre 150 et 200 stères de bois par an. Donc au niveau du stockage, trouver le bois de bonne qualité, se le faire livrer, enfin bon voilà. Et puis il y avait aussi la question du collège, hein. Nous on est juste en face du collège de Couloisy, donc le bâtiment est pas très haut, donc on avait aussi la crainte qu'il y ait éventuellement des fumées, hein, qui puissent embêter le collège. Et puis honnêtement, la gestion d'un four à bois, en termes de poussière, c'est quand même très engageant, quoi. Il faut tous les jours remettre le truc... au carré, enfin
c'est des heures d'aspirateur, quoi.
Oui, d'aspirateur, et puis avec la météo, ça a une incidence incroyable sur le tirage du four, enfin bon, donc c'est pas que je me suis découragé, mais je me suis dit à un moment pour être opérationnel tous les jours et essayer d'avoir un résultat au niveau des pains qui soit régulier et que les clients aient quand même des pains qui soient jolis tous les jours, bon, c'est pour moi c'était quand même un peu plus confortable. confortable, en sachant aussi que pour apprendre à maîtriser un four à bois, il faut quand même plusieurs années. Donc on a une toute petite équipe. Le jour où, moi en l'occurrence, je ne suis pas là, il faut que j'ai quelqu'un derrière aussi qui puisse s'occuper de la bête. Parce qu'on parle vraiment de ça. C'est les gens qui sont au four, sur un four à bois, ça demande une grosse maîtrise. Et bon, voilà.
Isabelle, vous avez commencé à vous former un petit peu en boulangerie ou pas du tout ?
Non, en fait, non, je laisse ça à Benoît, en fait. J'ai beaucoup travaillé sur la biscuiterie, je travaille encore pas mal sur la pâtisserie, et la boulangerie, c'est vraiment Benoît, ouais. Mm.
Alors, c'est quoi, sur Facebook, c'est marqué un Lamsung Shushong, c'est quoi le...
Ah, un thé, ouais.
C'est un thé ?
Oui, c'est d'accord. Un thé. Oui, c'est un thé, en fait. J'aime beaucoup le thé. Et on vend pas mal de thé chez nous, et on peut déguster sur place des thés également, ouais. Mm.
Et c'est quoi les prochaines recettes ? Est-ce que vous avez des... Alors, souvent, il y a des recettes qui reviennent, par exemple, il y a les biscuits de Noël qui reviennent.
Ouais.
C'est quoi les choses qui ont des saisonnalités, si on peut parler de saison en ce moment ?
Alors, on a pas beaucoup de produits qui sont vraiment très saisonniers en biscuiterie. En effet, le biscuit de Noël, mais en dehors de ça, on a une gamme assez stable de quasiment une vingtaine de produits, ce qui est déjà assez important pour une biscuiterie de notre taille. Donc, entre les biscuits, les granolas qu'on vend, qui sont une grosse partie de nos ventes aussi. Hein, les granolas
c'est pour le petit-déj.
Ouais, pour le petit-déj ou même en snack sur la journée. Ça peut être dégusté un peu à tout moment de la journée. Ça devient une très belle vente, donc ça demande aussi du boulot. Et puis, on a aussi des cakes qu'on vend plutôt pas mal. Donc voilà, entre tout ça, on a quand même une bonne vingtaine de produits sur la partie biscuiterie. Ouais.
Il y a les galettes, c'est quoi comme période où on mange de la galette
Ah, la galette des rois.
Ouais.
Alors nous, on ne fait pas de galette des rois. Peut-être qu'un jour, on en fera. Hein, mais
la galette à base avec des fruits confits.
Oui, c'est ça. Alors, on fait une couronne des rois au moment des rois, qui est en fait la galette traditionnelle plutôt du sud de la France, donc on connaît ça, moins ça chez nous, et c'est une brioche aux fruits confits en fait, avec une fève, tout ça, une petite couronne qui va bien, et on fait ça au mois de janvier.
Et pour en ce moment, il y a des petits roulés à la cannelle aussi, on retrouve assez peu de gâteaux à la cannelle en France.
Ouais, c'est vrai, le roulé à la cannelle, on aime beaucoup ça. Alors c'est vrai que c'est devenu un best-of aussi pas mal dans beaucoup de boulangeries maintenant parisiennes notamment, et je comprends parce que c'est un produit qui est très sympa et qui est très cannelle, ouais, pour ceux qui
en
aiment.
En fait, il y a un vrai savoir-faire en boulangerie nordique. Je pense que les néo-boulangers dont on fait partie s'intéressent aussi pas mal à la boulangerie européenne, et notamment la boulangerie allemande, qui a une belle tradition. Bon, ils sont aussi, comme nous, impactés par l'industrie, hein, évidemment, mais ils ont un vrai savoir-faire sur les variétés anciennes, notamment de seigle ou d'épeautre. Et puis, dans le Nord, notamment en Norvège, en Suède, au Danemark, il y a une très belle tradition de la pâtisserie de salon de thé, de gâteaux de voyage, un peu ce que nous, on essaye de faire aussi. Et c'est vrai qu'ils ont une utilisation des épices, notamment de la cannelle et de la cardamome, qui sont vraiment deux épices géniales pour les petites pâtisseries de voyage, quoi, ou la petite viennoiserie. Et ils ont notamment aussi un savoir-faire sur d'où le rouler à la cannelle, un savoir-faire sur
le pliage,
sur l'enroulage de la pâte, qui est assez sympa. Il y a des bouquins assez techniques là-dessus, ou sur les réseaux, si vous cherchez justement Cinnamon Roll, vous allez voir des gens qui s'éclatent à trouver des techniques pour tourner la pâte autour de leur pouce pour fabriquer ces petits roulés.
La cardamone, c'est quoi comme épice ?
Alors c'est d'origine indienne ou enfin en tout cas Asie, c'est une petite gousse verte dans laquelle il y a des tout petits grains noirs, et donc on peut utiliser l'ensemble ou une des parties. Ça se marie extrêmement bien avec d'autres épices et aussi avec le chocolat.
Comment ça se passe pour la production ? C'est chaque jour, c'est une production de biscuits différents. Par exemple, quand vous faites la chocolat menthe, toute la boulangerie doit sentir la menthe. Ouais. Comment ça se passe ?
Ouais, alors en fait, le chocolat menthe, c'est vraiment le biscuit qui nous pose un peu de soucis parce qu'on ne sait pas quand le faire. Parce que on est fait tout sans la menthe, et puis il faut pas faire du pain en même temps. Il faut vraiment que ça soit un peu séparé. Donc on jongle un peu avec ce chocolat menthe. Pour le reste, on fait deux productions de biscuits différentes par jour. Et pour vous donner une idée, on sort, ce qui est très petit, hein, on reste très artisan dans notre biscuiterie, on sort 500 sachets de biscuits par jour.
Ça fait en gros 60 kilos de pâte à biscuits. Ce qui est effectivement petit. Enfin, je pense, on n'a pas les chiffres des industriels, mais je pense que c'est à peu près ce qu'ils doivent sortir au quart d'heure.
Au quart d'heure, ouais.
Par heure. Ça.
Après, il faut toute une logistique pour pouvoir envoyer les colis. C'est vous qui les préparez ? Il y a quelqu'un.
C'est ça. Ouais. On a des Des collaboratrices qui font ça super bien, qui emballent en fait, et ça c'est une grosse partie de notre travail en fait. Pour une heure de cuisson de biscuits, de production de biscuits, on a une heure et demie d'emballage. Et donc il y a de l'emballage de biscuits, ça il faut être très soigneux, ça prend du temps. Et puis après, toute la logistique pour faire partir les biscuits, qui ne cassent pas, qui soient super bien emballés, calés, voilà, ça part. Et puis ça part par transporteur dans toutes les boutiques qui veulent bien de nous.
C'est quoi les ratages dans une biscuiterie? On sait qu'il y a des gâteaux qui sont apparus, ou des sucreries qui sont apparues un peu par des erreurs. Est-ce que vous faites des erreurs des fois? La semaine dernière, c'était les brioches le matin qui étaient toutes petites, mais qui étaient aussi lourdes en fait au final, en termes de nourriture.
Ouais. Bah il y a des ratages. C'est sûr que oui, on peut oublier le sel, on peut oublier la levure, ça c'est le plus gros ratage, mais ça va vite en fait, hein, parce que ce qu'il y a, c'est que sur une production de 30, 40, 50 kilos de pâte à biscuits, si on oublie la levure, et c'est foutu quoi.
Donc le truc de base qui à mon avis concerne un peu tous les gens qui font des biscuits, c'est évidemment la cuisson.
La cuisson.
Parce qu'on est quand même à la minute pour le coup.
Ah, d'accord.
Et quand on a des grands fours quand même, hein, même si on est une petite biscuiterie, on a carrément des échelles, hein, qui rentrent. Donc les échelles, c'est des espèces de chariots avec des niveaux sur lesquels sont enfilées des plaques. Et donc sur une échelle, il peut y avoir une trentaine de plaques sur laquelle il va y avoir par plaque l'équivalent d'une cinquantaine de biscuits. Donc le calcul, il est assez vite fait. Il y a à peu près 1500 biscuits qui rentrent dans un four. Et en l'occurrence, quand c'est 5 ou 6 minutes, c'est pas 7 quoi. Il faut vraiment faire très attention, et du coup derrière l'impact il peut être assez...
C'est pas comme à la maison, c'est pas quand on se dit je remets un quart d'heure de cuisson et puis on verra bien, mettrai
sur le biscuit, non. Après sur le pain ou sur d'autres préparations, sur d'autres gâteaux, c'est moins sport, mais on va dire que sur certains biscuits, on fait notamment des amaretti ou des macarons d'Amiens, on est vraiment à la minute.
Comment ça se passe l'empiècement? C'est quoi? C'est des petites boules? C'est comment vous préparez les biscuits?
Non, alors en fait, on a une machine qui s'appelle une dresseuse à biscuits, qui nous aide à faire les biscuits, qui est une grosse trémie en fait, où on met de la pâte, et on a comme des règles qui permettent de pocher en fait les biscuits et qui tombent sur une plaque qu'ensuite on met au four. Et ça, c'est une machine qui est essentielle pour nous, hein, on pourrait pas... Alors, au tout début, quand on a commencé la biscuiterie avec Benoît, pendant un an, on n'avait pas de dresseuse et on faisait tout à la portionneuse à glace, qui est devenue une portionneuse à cookies à la fin. C'est bien un an, mais pas plus quoi.
Du coup, ça fait les forces, il faut appuyer.
Ouais, c'est ça, on s'est fichu en l'air les canals carpiens en fait.
on avait la croyance qu'on pourrait, avec une portionneuse dans chaque main, ou avec une poche pâtissière dans chaque main, ou même à un moment, on avait des pistolets à churros, je sais pas si. Ouais. Quoi ça ressemble, et on était là à jouer au cow-boy, mais non, c'est pas possible, ça marche pas.
C'est quoi du coup la peur quand on a ce genre d'entreprise? C'est d'avoir trop de réussite, de réussir trop vite et de pas réussir à pouvoir contenter tout le monde, ou à se perdre dans la production? Parce que là, du coup, l'évolution, elle se fait au fur et à mesure. Ouais. Vous découvrez les choses. Et peut-être que quand il faut racheter du matériel, ça coûte de l'argent.
Ouais. En ce moment, en tout cas, si on parle d'aujourd'hui, notre plus grosse crainte, c'est le coût de l'électricité. Là, on est à peu près à 3 500 € d'électricité par mois, ce qui est complètement délirant pour une entreprise comme la nôtre. Et voilà, ça nous pose vraiment souci.
Vous étiez à combien au début?
Alors, il y a encore même quelques mois, on était à 1 000 €, un peu plus de 1 000 €, et on a un contrat électrique qui s'est terminé. On a dû renégocier des prix, mais les prix sont très élevés. Et en effet, nous, on a quand même des fours qui mangent un peu d'électricité. Donc,
Même passé à travers les gouttes. Enfin, pardon, mais c'est très cher. C'est quand même difficile à absorber. Mais on a eu la chance à l'époque d'avoir un contrat qu'Isabelle avait bien négocié au bon moment. Et on est passé à peu près à travers les gouttes, contrairement à d'autres confrères qui, se sont retrouvés avec des prix.
Fois 10, fois 15.
Ouais, c'était hallucinant. Enfin,
ça l'est toujours. Hein, on en parle beaucoup moins, mais ça reste quand même très problématique. Ça, c'est vrai qu'en ce moment, c'est assez problématique. Et puis, on est complètement en bio, évidemment. On a des matières premières qui coûtent, alors parfois deux fois plus cher que du conventionnel, et puis parfois cinq fois plus cher en fonction des matières premières. Ça peut être vraiment très, très important, les différences de prix. On s'en rend pas bien compte, mais... tout devient très cher, le beurre est extrêmement cher, en plus on essaie vraiment de travailler le plus local possible. En tout cas, quand c'est pas tout prêt en Picardie, le beurre, on n'en a pas, mais on va l'acheter en Normandie. Mais voilà, on utilise plus d'une centaine de kilos de beurre par semaine, largement. Et du coup, voilà, c'est des matières qui coûtent cher. Et avec ce changement climatique, on ne sait pas vraiment où on va, quoi.
Et donc, vous n'avez pas répercuté... vous ne pouvez pas répercuter en fois deux sur les biscuits, quoi.
Ah non, absolument pas, non. Donc, c'est vrai que la marge est moins importante, de moins en moins. Donc, on essaie vraiment de travailler ça, mais tout est cher, l'emballage. Enfin, voilà, j'apprends rien à personne, hein, mais c'est vrai que ça, c'est notre plus grosse inquiétude, quelque part. C'est comment on va avancer avec tout ça, avec ces prix qui flambent et qui baissent pas, quoi.
Je pense aussi que sur la biscuiterie artisanale, on souffre aussi de l'image de la biscuiterie industrielle. Enfin, de l'image ou en tout cas des prix de la biscuiterie industrielle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans un rayon, que ce soit en bio ou en conventionnel, les biscuits industriels sont quand même relativement accessibles en prix parce qu'ils sont faits en quantité astronomique avec des cadences que nous, on ne peut absolument pas du tout assumer.
Ouais, c'est pas qu'à 1,20€, c'est pas possible. Quoi.
Voilà, c'est clairement pas possible. C'est même pas le prix d'achat de nos matières sur le paquet. Donc, c'est très compliqué. Et du coup, psychologiquement, je pense que les gens ont encore un peu de mal à comprendre le travail qu'il peut y avoir derrière, la sélection des produits, le savoir-faire. Souvent, on évoque un peu nos confrères confiseurs, notamment en chocolaterie, par exemple. Alors, eux aussi, on souffre énormément de la comparaison entre ce qui se fait dans leur petite boutique à l'échelle d'un artisan chocolatier et d'une grosse machinerie. Mais c'est vrai qu'on a à peu de choses près les mêmes coûts de matières premières entre un biscuit au chocolat et un bonbon de chocolat, par exemple. Mais le chocolat reste quand même un produit un peu festif dans la tête des gens, et je pense que les chocolatiers peuvent se permettre encore un prix qui est quand même beaucoup plus intéressant pour eux en termes de marge. Nous, on est obligé de jongler avec l'image de la chocolaterie industrielle, de la biscuiterie industrielle, et du coup, c'est quand même compliqué, quoi.
Oui, là, c'est le gâteau qu'on mange à 4 heures au petit-déj, quand on rentre, enfin, c'est le gâteau de tous les jours, quoi.
On aimerait bien s'inscrire là-dedans. Ce dont on s'aperçoit, c'est qu'on est quand même plutôt un produit à offrir. La plupart des clients, en fait, offrent. Après, il y a des consommateurs réguliers, hein, mais on a plutôt une clientèle de personnes qui font des petits paquets à offrir.
On refait un tour en musique avec cette fois une autre sélection. Donc c'est, je crois, je sais plus qui c'est.
C'est
Feu Chatterton. Il faut remettre de l'autre côté le potard. Allez, on se retrouve juste après. Radio Graphite 94.9, www.graphite.net.
Toutes mes pensées naissent dans les nuits d'ivresse. Encore dans ce petit rad, l'heure est avancée, mais où est-ce que t'iras? Encore dans ce petit rad, mais où est-ce que t'iras? L'heure est avancée. Ça y est, voilà, je suis réel. Ça y est, voilà, ça y est, voilà, ça y est, voilà. Encore dans ce petit rad, l'heure est avancée, mais où est-ce que t'iras? Encore dans ce petit rad, l'heure est avancée, mais où est-ce que t'iras? Et ma hargne se dilue dans un océan de quiétude et de liquide. Toi que je vois dans la glace, dis-moi, qui es-tu? Dis-lui. Ça y est, voilà, ça y est, voilà, ça y est, voilà, je suis arrêté. Ça y est, voilà, ça y est, voilà, ça y est, voilà, je suis arrêté. Ça y est, voilà, ça y est, voilà, ça y est, voilà, barre-toi. Et votre mon bout de, ce fut comme un baiser sur mes lèvres frileuses et mon cœur empesé. Cette nuit, oh, cette nuit-là où vous m'avez eu. Ouais. Le rouge à ma honte s'y est beaucoup mieux à mon verre de vin. Que drapeau français, tous les amirals, ça dégénère. Moi, ne faut pas cadencer. Entre mes doigts ruisselle une idée de vengeance. Ça te caresse démangeant mes paumes, je serre les poings. Et ma hargne se dilue dans un océan de quiétude et de liquide. Toi que je vois dans cet alcool d'agave, dis-moi qui es-tu, oh, dis-lui. Ça y est voilà, ça y est voilà, ça y est voilà, je suis arrête. Ça y est voilà, ça y est voilà, ça y est voilà, je suis arrête. Et ma hargne se dilue dans un océan de quiétude
et ma hargne s'est dilée dans ce liquide. Toi que je vois, dis-moi qui es-tu? Rien de grave, doc, ce n'est que moi et mes turpitudes. Ça y est, voilà, ça y est, voilà. Comme un baiser sur mes lèvres frileuses, mon cœur refusé. Et votre mot goûteux, ce fut comme un baiser sur mes lèvres frileuses et mon cœur refusé. Cette nuit, où vous m'avez dit. Cette nuit-là, où vous m'avez dit.
Sentez les délicieuses effluves des grillades, vibrez au rythme des concerts live et soutenez les pompiers, nos héros du quotidien, au Festival du barbecue de Compiègne pour une journée festive et solidaire organisée par le Lions Club Compiègne Impérial. Entrée gratuite, rendez-vous au Parc Saint-Jean de Compiègne le samedi 15 juin de 11h30 à 21h30.
Et voilà, de retour pour la matinale, toujours en compagnie de la pierre qui tourne à Couloisy, donc la biscuiterie qui fait également du pain et aussi qui vous pouvez aller manger, boire un petit thé et un petit café. Juste à l'instant, c'était le festival du barbecue qui aura lieu ce samedi 15 juin au Parc Saint-Jean pour la deuxième édition. Donc on parle de pain, mais on parle également de viande, de 11h30 à 21h30, entrée gratuite. Et puis, donc il y aura barbecue. Faites quoi, vous, ce week-end, vous travaillez? C'est juste le lundi, vos jours fériés? D'ailleurs, vous êtes végétarien?
Oh là.
Non.
Alors attends.
Trop de questions, c'est ça?
Alors,
faites quoi ce week-end?
On mange quasiment pas de viande, quasiment pas. Quand on est invité chez les copains, par contre, on en mange.
Vous en mangez, hein.
Voilà, mais on mange quasiment.
On a eu des périodes très
très strictes, et maintenant strictes, on l'est un tout petit peu moins.
Et là on fait, ouais.
Qu'est-ce qu'on fait ce week-end?
Donc pas de festival du barbecue pour vous?
Ah, peut-être non, je crois pas. Voilà, ce week-end, je sais pas encore. on ira au festival. Hein,
alors justement, on vous fait des commandes spéciaux. Je crois qu'il y a genre les petits burgers, ce genre de choses, les petits pains burgers. J'ai déjà vu des pains à pizza. J'ai déjà vu aussi.
Ah oui, on a fait des petits pains à pizza pour le festival Picardie Forever tous les ans. Là, on fait ça avec Aurélien. Voilà, les pains burgers. Non, on n'en fait pas trop, pas encore. Ouais.
Vous bossez avec la Couloisy qui est juste derrière là, est-ce que...
Avec le collège?
Ouais.
Eh ben non, on bosse pas avec le collège. En fait, ils ont déjà leur boulanger depuis de nombreuses années. Donc voilà, je pense qu'ils travaillent ensemble toujours. Ouais.
Vous prenez des stagiaires de 3e? On vous en envoie?
On nous en envoie.
Ouais.
On les prend pas tous, hein, venez pas tous. Parce que un par un, quand même, après, ça devient compliqué. Ouais.
C'est quoi? Ils veulent faire. Ils préfèrent la boulangerie, la vente?
On prend des stagiaires, pas forcément de collège. On prend des stagiaires quand c'est vraiment des jeunes qui ont envie de devenir boulanger, qui ont un vrai projet, professionnel. Hein. Pour nous, ça a plus de sens, quoi.
Il y a des apprentissages qui sont faits dans la boulangerie. On peut devenir apprenti en boulangerie?
Alors, on peut devenir apprenti. Nous, on n'a pas encore pris d'apprenti en boulangerie. Ça viendra peut-être, mais pour l'instant, on a ouvert il y a 3 ans la partie boulange. On avait vraiment besoin aussi de... Enfin, et c'est encore le cas de... Enfin, on manque un peu de temps. Je trouve que pour prendre des apprentis, il faut vraiment du temps. Et pour l'instant, c'est encore un peu la course, quoi.
Ouais, c'est ça. Moi, je trouve qu'il faut leur consacrer le temps dont ils ont besoin.
Ouais.
Et ils sont pas là pour faire des cafés, les photocopies. Et nous, on a une approche aussi en boulangerie qui est quand même... Le vin 100%, ce qui n'est pas le programme, la majorité, enfin c'est un tout petit bout du programme du CAP. Donc c'est aussi un peu compliqué parce qu'on ne peut pas forcément leur consacrer des espaces pour leur faire ce qu'on leur demande au CAP. Donc c'est un peu compliqué.
Vous avez des enfants?
Oui, oui, on a 3 enfants.
Ils ont quel âge le plus grand?
21, 19 et 16.
Et alors, la transmission dans quelques années de la boulangerie, vous en parlez déjà ou pas
non,
du
mais
tout?
Alors en fait, qu'ils vivent leur vie, quoi. Surtout.
Là, mais voilà. C'est vrai que quand les parents construisent quelque chose, souvent, on aimerait bien par la suite que... Non,
non, franchement, non, qu'ils vivent leur vie après.
Ils sont intéressés par le pain, par
Ils sont intéressés.
Bon, ce qu'on a peut-être transmis, et ça, on en est assez content, c'est une exigence sur... sur ce qu'ils mangent, sur voilà, savoir faire la différence entre un vrai bon produit de saison et un truc qui ne l'est pas. Après, sur la transmission, on n'a pas d'attente par rapport à ça. Enfin, chacun vivra la vie dont il a envie et on les encourage à prendre l'air. Et voilà.
Puis vous êtes trop jeune pour le moment.
Ouais.
Bah, les boulangers, ça travaille jusque 70 ans, non,
oui,
c'est pas ça.
Sûr, oui.
Alors justement, est-ce que quand vous allez dans les restos, est-ce que maintenant vous avez toujours le côté un petit peu festif, le côté genre, est-ce que tout le temps vous dites ah comment ils ont fait ça, ou est-ce que je sais que par exemple dans la musique, moi maintenant quand je vais voir des concerts, j'ai jamais le côté très festif, je vois le côté boulot. Est-ce que vous, ouais, quand vous allez ça. Manger chez quelqu'un, bah alors, vous voyez des produits
en resto? Nous, on n'est pas restaurateur, donc on arrive encore à prendre beaucoup de plaisir sans décortiquer les trucs. En boulangerie, un peu moins, c'est vrai. On a tendance à... On va beaucoup voir les confrères, notamment quand on se balade dans les grandes villes, et on adore ça quand même, hein, c'est sympa, mais on bosse, quoi. C'est pas... On bosse, ouais. On goûte, on critique positivement ou un peu moins parfois, mais en tout cas... Et c'est un vrai enrichissement aussi d'aller goûter ce que font les autres et de voir comment ils travaillent. Voilà, et on aime beaucoup discuter avec des confrères pour ça. Ça, c'est super intéressant. Mais voilà, non, on a de la chance quand même aussi à Compiègne d'avoir des bons restos où on se fait vraiment plaisir, quoi. Mm.
Et sur la boulangerie, tout à l'heure, on le parlait à l'étranger. Est-ce que on parlait de l'Europe, mais est-ce qu'il y a des choses, je sais pas, en Amérique du Sud, au Japon, dans d'autres pays extra-européens?
Bah, il se trouve que les Japonais sont très très branchés boulangerie. Boulangerie
française qu'ils aiment.
Oui, il y a des boulangers français qui s'y sont installés et qui prospèrent. Et puis les Japonais, comme souvent, hein, en cuisine. Ou dans plein d'autres métiers, hein, mais ils ont une exigence qui fait qu'ils développent des compétences qui sont assez incroyables, quoi. Et en boulangerie française, je pense qu'il y a beaucoup de boulangers français qui ont quelques questions à se poser quand on peut voir ce que font les boulangers japonais.
Bon, l'avantage, c'est que le pays est vieillissant, donc peut-être qu'ils vont disparaître avant nous, quoi. La question musique, c'est comment vous êtes rencontrés, question musique, vous matchez tous les deux ou vous écoutez des choses différentes?
Ah, Benoît a une culture musicale énorme, beaucoup plus que moi, vraiment. Donc j'ai découvert beaucoup de choses. Voilà, j'ai toujours écouté beaucoup de musique, mais c'est vrai que tu as un univers quand même qui est très,
ouais,
très large.
C'est bel et modeste.
Après, on a des règles à la maison parce que, en fait, pour la petite anecdote, on a dû mettre des étais dans notre cave parce qu'on a tellement de vinyles et de CD que le plancher commençait à s'écrouler dans le salon. Donc il y a un moment, en fait, il y a un deal où c'est « Ok, t'as le droit de ramener un vinyle, mais t'en dégages au moins un. Si ce n'est deux, ça serait encore plus cool. » pour qu'on puisse un peu avoir une maison qui tient debout. Et non, mais c'est vrai qu'on aime écouter de la musique, quoi qu'il arrive. Ouais.
Enfin, Isabelle est modeste parce que quand on s'est rencontrés, on va pas tout raconter, mais elle était déjà une grande amatrice. Et moi, j'ai découvert, entre autres, la musique du monde, le reggae, enfin, vraiment des choses que tu écoutais. Enfin, moi, je ne connaissais pas le reggae, par exemple, à l'époque. Hein. J'étais très, très rock, même plutôt rock alternatif. Enfin, j'écoutais pas mal de garage à l'époque. Et, enfin, voilà, des trucs un peu où ça secouait pas mal. Et puis j'ai découvert voilà, plein de choses très chouettes avec Isabelle. Et puis du coup, en fait, en croisant nos goûts, on a ensemble découvert aussi plein d'autres choses, quoi.
D'ailleurs, vous avez fait quoi, Isabelle, avant de faire de la boulangerie, de venir à la boutique?
Alors, Benoît comme moi, on est naturopathe de formation, hein, donc on a fait pas mal on a fait un cursus de naturopathie sur Paris pendant 5 ans chacun, voilà. Ça a été notre gros socle, et avant on a été un peu à la fac, mais on n'y a pas fait grand-chose. En tout cas, ce qui a été intéressant pour nous, on est très intéressés, et toujours, hein, par les médecines alternatives en général, et voilà. Après, la bouffe est restée chez nous très présente, quoi. Et voilà, le produit en général.
C'est quoi les vertus du pain au levain?
Ah bah, oui, évidemment. En fait, il y a une très grande digestibilité du pain au levain, bien, bien supérieure à un pain à la levure. En fait, c'est tout un ensemble, le fait d'utiliser déjà des variétés anciennes de blé, de travailler sur des longues fermentations comme on fait nous au sein de notre fournil, et puis et d'utiliser 100% que du levain et pas du tout de levure. Au final, le peu de gluten qui reste dans le pain est prédigéré par les... par la fermentation, et on est sur des pains qui sont quand même beaucoup plus digestes, et on est super content de ça, parce qu'on se rend compte qu'on a des clients qui nous disaient, moi je peux plus manger de pain, enfin une baguette, je gonfle, je suis pas bien, j'ai mal au ventre, et au final, au fur et à mesure, petit à petit, via le pain en levain, ils arrivent à reconsommer du pain et à se trouver plutôt bien avec ça. Et ça, c'est ce qui nous intéresse aussi, quoi.
Alors, pour les diabétiques, parfois, on voit des pains spéciaux diabétiques. Ça existe vraiment, ou c'est purement marketing, le pain pour les diabétiques, dans les boulangeries classiques ?
Tu veux une réponse consensuelle
Une vraie réponse
Une vraie réponse de... Oui,
la vraie réponse qui serait alors liée à ce que je... ce qu'on connaît en naturopathie et en nutrition et ce qu'on a expérimenté avec les clients, c'est que clairement, pour qu'on ait un indice glycémique qui reste le plus stable possible, il faut des fibres. Et du coup, ces fibres permettent que les glucides, enfin les amidons et tout ça, soient assimilés lentement. Donc en gros, si on ne travaille pas sur une base de céréales complètes ou intégrales, en petite quantité, parce qu'il ne faut pas non plus avoir un effet abrasif sur la muqueuse de l'intestin, mais en tout cas, une consommation de pain complet ou intégral, de bonne fermentation, permet d'avoir un indice glycémique qui reste stable. Quoi.
Donc complet ou intégral, c'est-à-dire qu'on retire soit la peau du grain, et c'est quoi le intégral, c'est quoi ?
Alors l'idée, c'est... Alors si jamais on n'est pas aux États-Unis avec des farines ultra intégrales, où là, il y a quasiment toute l'enveloppe du blé, en France, on a quand même sur l'intégrale, on enlève quand même une petite partie du son, enfin de l'enveloppe. Mais l'indifférence entre l'intégrale et le complet, c'est justement une plus grande quantité de son, enfin d'enveloppe autour du grain. Donc intégrale, c'est quasiment toute l'enveloppe. Complet, on en enlève une petite partie. Quoi.
La farine qui coûte le moins cher, c'est la farine transformée, ou justement quand c'est complet, vu qu'il y a tout, il y a moins de, il y a une différence de prix ou pas?
Bah ça, alors, logiquement, on pourrait s'imaginer que c'est plutôt la farine intégrale qui va être moins chère. Pas toujours. Ça dépend un peu des meuneries, ça dépend du type de grain, voilà, du travail qu'il peut y avoir derrière. Mais bon, voilà, globalement, sur les farines, ce qu'on sait en tout cas, c'est que les farines blanches sont souvent beaucoup moins chères à l'échelle industrielle, parce que c'est celles qui sont les plus utilisées. Et on a alors là, pour le coup, tout à l'heure, on parlait des marges sur les biscuits, sur le pain, c'est pareil, c'est un truc assez dingue de voir la différence de prix entre une farine blanche industrielle et puis les farines de petites meuneries comme nous, on utilise. On est 3 ou 4 fois plus cher sur une farine de petite meunerie en bio, quoi.
Et sur vos invendus, est-ce que vous faites, j'ai vu qu'ils faisaient de la bière avec du pain,
des drèches,
ce genre de choses, qu'est-ce que vous faites de vos invendus, vous?
Alors on a très peu d'invendus, franchement en pain on a très peu d'invendus, on arrive plutôt à bien maîtriser,
bien gérer, ouais.
Le peu qu'on a, on a des copains qui ont des animaux et ils le donnent aux animaux, et puis on bosse avec un peu tout goût tout go, donc voilà. Et les restos du cœur aussi, quand on a vraiment trop. Mais c'est plutôt rare.
Après, on fait le choix aussi d'essayer de faire entendre aux clients que le rayon n'est pas plein jusqu'à la fermeture. Mmh. Et que l'idée, c'est d'avoir...
Oui, si on arrive à 17h, on prend ce qui reste, quoi.
Bah, ouais, c'est ça. Il reste des choses, hein, mais on prend
on ce les encourage. C'est pour ça qu'on les encourage beaucoup à la réservation. Parce qu'on est ravis de faire du pain et on est ravis d'en faire plus si on a des commandes. Mais on essaye aussi d'être cohérent dans notre approche écolo, quoi. De se dire, on ne va pas produire... utiliser de la matière première, utiliser de l'électricité pour que ça finisse à la poubelle. Oui.
J'avais voulu vous inviter pendant les fêtes de Noël pour justement faire un petit parallèle avec Noël. Vous m'avez dit, ah non, c'est pas possible. C'est quoi la période de l'année qui marche le mieux?
C'est Noël est une période très dense. En fait,
pour les gâteaux, pour les biscuits, pour les cadeaux qu'on offre?
Oui, c'est ça. À partir de septembre, en biscuiterie, on ne touche pas terre. On est de septembre à janvier. Et puis, pour la boîte en général, entre octobre et janvier, les copains ne nous invitent plus, quoi, ils le savent.
On va écouter un extrait d'un disque que vous avez ramené. Alors, cette fois, on n'est plus sur du vinyle, on repasse sur du CD. On n'avait pas allumé la platine CD depuis pas mal de temps. Donc là, c'est Polar Bear.
Ouais.
Présentation de Polar Bear.
Eh ben, Polar Bear, c'est un groupe britannique qui a été fondé par un super batteur dont je ne me souviens plus le nom, pardon, ça m'échappe. On est sur du jazz, électro-jazz, en fait, avec quand même des rythmes bien sympas parce que le lead à la batterie, quoi.
Et c'est sorti chez Leaf Records. On se retrouve juste après pour la fin de l'émission. Et c'est parti, on lance un CD. We'll be right back. Polar Beer sur les ondes de Graphite 94.9. C'est la matinale, on est encore ensemble pendant une dizaine de minutes. On parle biscuits, boulangerie, j'espère que ça vous a donné faim. Allez vous arrêter à Couloisy. C'est quoi l'adresse de la biscuiterie d'ailleurs? C'est, comment elle s'appelle cette rue sur les Rennes 31?
Alors c'est 20 rue du Chemin Vert, mais alors il faut surtout pas mettre ça sur le GPS parce que vous arrivez dans un champ en gros. Non, c'est devant le collège en fait, devant le collège de Couloisy,
sur la Rennes. Route de Reims.
Route de Reims.
Ouais, vous suivez les radars, quoi.
Ouais, exactement. Il ne faut pas avoir peur des radars. N'ayez pas peur. Et venez nous voir.
Là, aujourd'hui, comment ça va se passer? Comment ça se passe une journée classique? C'est quoi? Vous arrivez à quelle heure pour vendre les... On a compris 4h du matin pour commencer
à
la production.
Il commence à 4h. Il fait du pain, cuisson, tout ça pendant... Il y a au moins 4-5 heures de cuisson. Et puis ensuite, il prépare avec les autres boulangers le pain pour le lendemain. Donc, il y a toute la préparation.
Ah oui, d'accord.
Du pain, en fait.
Le soir, production, vous faites le solide du lendemain pour que ça monte. Okay.
Ouais, ouais, exactement. Parce qu'il y a 24 heures de fermentation au moins. Donc, il faut un petit peu de temps pour faire du pain en levain. Et puis, à 9h, la boutique ouvre jusqu'à 19h. Donc, on a 9h, 19h non-stop. Donc, il y a une grosse partie vente aussi. Et puis, il y a toute la gestion. Moi, j'ai beaucoup de gestion administrative, de personnel, et puis la gestion commerciale quand même, quoi. Donc, on ne s'ennuie pas, en fait, hein, je crois. on arrive parfois à se trouver des moments où on travaille un peu moins, mais ça dépend des semaines, ça dépend de... Voilà.
Alors, vous avez fait le choix d'avoir des vacances, hein, de fermer complètement la boutique. Ouais. C'est combien de fois par an?
Alors, on ferme une fois au mois de février, une semaine, et puis 3 semaines en août.
Vous avez, comme vos collègues, une obligation de déclarer vos vacances à la préfecture pour qui... Je sais qu'il y avait tout avant une histoire
Non,
vous n'avez pas ça?
Je sais pas.
Non, mais
alors,
c'est pour la boulange
classique.
Avec une permanence et tout ça. Non, on n'est pas là-dedans.
C'est comme les pharmacies de garde.
Bah oui, ouais,
on est boulangerie de garde. Alors,
je sais que les boulangers doivent. Enfin, je ne sais pas si c'est toujours le cas aujourd'hui, mais avant, ils devaient donner leurs vacances pour qu'il y ait tout le temps une boulangerie ouverte dans un quartier.
Ah ouais, bah non.
Ça peut créer des révoltes. Hein.
Ah ouais, c'est vrai.
Et l'ouverture à 9h, pourquoi le choix d'ouvrir si tard?
Parce qu'on est un pain de conservation, donc quelque part, on n'est pas obligé d'ouvrir à 6h hein, pour... voilà, et puis aussi on essaye vraiment aussi que chacun ait un rythme, tous nos employés ont des rythmes plutôt vivables en fait, et du coup on ferme le dimanche lundi complètement, donc on a une grosse partie de nos collaborateurs qui travaillent pas du tout le week-end, on essaye d'avoir pas d'horaire de nuit ou très peu, 4 heures c'est vraiment maximum. On essaye d'avoir un rythme pour chacun qui soit viable, quoi.
Ouais, la qualité de vie au travail, c'est pas seulement les biscuits, c'est également avec les salariés.
Ouais, tout à fait. Non, mais c'est évident, quoi.
C'est quoi le petit conseil qu'est-ce que vous nous conseillez dans la boulangerie ou dans la biscuiterie là, si on vient ce matin, les produits à acheter entre du pain, faire un petit bout de fromage, boire un petit coup de champagne ou autre chose, rhubarbissimo par exemple.
Le gros best-of en pâtisserie chez nous, on a un carottes cake, je pense, qui est plutôt sympa, que tu connais.
Je connais plutôt pas mal.
Voilà, ça c'est un produit qu'on aime bien, qui est plutôt agréable et qu'on trouve pas beaucoup hein, dans le coin. Donc, on a des grands amateurs de carottes cake. Après, on a un pain, notre pain paysan est chouette. On a un pain avec des variétés anciennes qu'on aime beaucoup, qui est très aromatique, qui est un pain. Un pain chouette pour du petit-déj au repas du soir, quoi, sans problème, avec du fromage ou de la confiture et du beurre.
Le pain brioché?
Ouais, le pain brioché, c'est bien aussi, parce que c'est un peu plus gourmand, c'est moins gras qu'une brioche, c'est beaucoup moins sucré, mais ça reste gourmand. Ouais.
Et les pains spéciaux, les pains avec des céréales ou des choses dedans, c'est lesquels?
Ben là, on a repris, alors c'est une petite saisonnalité, mais on a repris le pain aux olives. On essaye d'en faire sur la période, fin de printemps et sur la période d'été.
C'est olive verte ?
Olive noire, les olives de Kalamata de Grèce. Bon là, du coup, on n'a pas réussi pour l'instant à trouver des olives
du coin.
C'est,
bientôt.
Alors, il y a les olives de Nyons, mais c'est compliqué de les avoir sans noyau. Et croquer dans une tranche de pain avec des olives à noyau, c'est compliqué.
Un peu.
Encore 10 ans, et puis avec le réchauffement climatique.
Oui, bien sûr, on aura des bananes à Reims, ça sera top. Non, mais après, sur le pain, oui, il y a le week-end, on essaye de faire des choses un petit peu différentes. On a du pain avec du sarrasin. On a quand même une clientèle assez amatrice de petit épeautre, hein, qui est une variété ancienne aussi de... C'est ce qui s'appelle de l'engrain, donc c'est une variété ancienne de blé. Et puis, bah, on essaye d'amener aussi les clients à découvrir et d'autres céréales et puis d'autres formats. Moi, je suis assez. On parlait tout à l'heure de la cuisson. Je tiens aussi à ce que les gens découvrent des pains cuits parce que ça, c'est un peu le truc qu'on a perdu aussi maintenant. On mange tous. Enfin, beaucoup de gens mangent des pains mous, des pains de mie. Enfin, et nous, on essaye vraiment de militer pour des pains qui aient de la mâche.
On rappelle la boutique, l'adresse de la boutique à Couloisy.
Ouais, alors c'est 20 rue du Chemin Vert à Couloisy. C'est juste devant le collège, c'est sur la Nationale, on ne peut pas nous rater.
Et ouvert du mardi au samedi.
Du mardi au samedi de 9h à 19h.
Isabelle Benoît, merci beaucoup d'être venue jusqu'à nous ce matin. Merci. Et peut-être Isabelle, un dernier mot, vous vouliez dire quelque chose avant de quitter.
manger du pain et manger du bon pain et manger bien, quoi.
Il n'y a pas de message pour votre mère ?
Non, rien.
Merci beaucoup, et puis merci pour la sélection musicale. J'espère que Diggers Réunion vous contactera très prochainement pour vous inviter. Et pour terminer, on écoute, on retourne dans la programmation de Graphite avec Sandra Nkake, le titre Under My Skin. Et puis, si vous avez pris l'émission en cours de route, elle est podcastable, www.graphite.net. Et si vous voulez postuler pour la biscuiterie de la pierre qui tourne, il y a toujours une annonce qui est en cours sur la page Facebook de la boutique. Allez, bonne journée, bon courage. Et nous, on se donne rendez-vous demain matin pour une autre matinale.
Was 19.